Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct tous les jours, le lundi, du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, je suis bien accompagnée dans ce studio par le médecin d'Europe 1, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous allons nous intéresser aux secrets, aux particularités du cerveau féminin. Parce que oui, notre cerveau a un sexe, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est supérieur, mais cela pourrait expliquer certaines différences entre hommes et femmes. Vous verrez notamment que les hormones influencent nos fonctions cérébrales, modifient même certaines zones de notre cerveau et même nos intentions de vote ou notre sens de l'orientation. Alors ça vous intrigue, j'en suis sûre, et c'est pas fini. Pour nous aider à décrypter ce cerveau féminin, nous recevrons le docteur Sylvie Chocron. Elle est neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous vous proposerons une petite pause gourmande, une pause goûtée. Après tout, c'est presque l'heure, hein, la naturopathe Candice Lévy nous présentera ses nouveaux goûters bons pour la santé garantis avec zéro sucre raffiné. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous donnera ses ingrédients pour pimenter la vie de couple après des dizaines d'années de vie commune.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Léna. Écoutons-la.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Alors moi, je vous appelle parce que je me suis fait opérer. Et en fait, après mon opération, on m'a conseillé de masser la cicatrice pour qu'elle soit plus jolie. Mais en fait, je ne vois pas en quoi la masser va arranger son apparence. Du coup, je voulais savoir si vous pouviez m'éclairer sur le sujet.
Alors pour vous répondre avec précision, nous avons interrogé pour vous un spécialiste du sujet. On va écouter ensemble Frédéric Sroure, il est kinésithérapeute.
C'est important de masser une cicatrice. Il faut la masser en général après un avis quand même d'un professionnel de santé, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un examen visuel pour voir si la cicatrice peut être massée en automassage. Alors il faut éviter de masser une cicatrice qui soit rouge, qui soit encore ouverte, qui saigne, qui montre des signes d'infection, où il y aurait du pus par exemple qui sortirait, ou une cicatrice où il y aurait des petites cloques autour. Tout ça, vaut mieux prendre un avis médical quand même et éviter. On masse une cicatrice alors soit sans produit, soit avec une crème hydratante à pH neutre ou une huile naturelle ou quelque chose qui soit à base de silicone ou d'acide hyaluronique. Et ensuite, on peut la mobiliser, donc faire des petites frictions circulaires. On peut également la pincer régulièrement sur toute la longueur, dans un sens ou transversalement par rapport à la cicatrice et mobiliser la peau pour essayer de rendre quelque chose qui soit plus souple. Et si on arrive par la mobilisation et par le massage à diminuer le risque d'adhérence, elle aura probablement un meilleur aspect esthétique et une meilleure souplesse. Elle sera peut-être moins douloureuse.
Voilà une réponse très complète. C'était Frédéric Sroure au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, à présent on va prendre une autre question, la deuxième du jour, hein, celle que nous a laissée Esteban pour vous. Écoutez bien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Il m'arrive d'être pris de fortes douleurs à la tête et justement j'aimerais savoir comment différencier un simple mal de tête et vraiment une migraine. Est-ce que le traitement pour les deux est le même ? Merci pour vos réponses.
Jimmy, je sais pas, on a beaucoup de questions sur les maux de tête en ce moment. Les gens en ont plein la tête, je crois. Alors pour répondre à Esteban de manière précise, maux de tête, migraine, c'est quoi la différence ?
Alors c'est deux choses différentes. La migraine, c'est une maladie neurologique dans laquelle vous avez 20% de la population française. Donc c'est extrêmement fréquent. Il y a une part héréditaire. Souvent, vous avez dans votre entourage le papa ou la maman qui est migraineux. Et vous avez, vous aussi, cette migraine qui va parfois commencer dès l'enfance. Dès l'âge de 6 ans, on peut faire des migraines et c'est souvent sous-diagnostiqué. Alors la migraine, elle a plusieurs caractéristiques très claires. Le premier, c'est une répétition de crises. Dès le premier épisode, on ne peut pas dire que c'est une migraine. Il faut au minimum 5 crises. Vous allez avoir des maux de tête qui vont durer entre 4 et 72 heures. Donc ça dure assez longtemps.
Ah oui.
C'est pulsatile, c'est-à-dire que ça lance dans la tête comme si votre cœur battait dans la tête. Ça touche souvent la moitié de la tête, donc à gauche ou à droite. Mmh. C'est rarement les deux côtés. Et ça va s'accompagner de signes un peu étranges comme des nausées, des vomissements, le fait d'être gêné par la lumière ou par le bruit. Et on est obligé de dormir. Le migraineux doit se coucher, alors que celui qui a simplement mal à la tête, eh bien, il peut mener ses activités classiques. Il peut continuer à travailler. Le vrai migraineux, lui, dès qu'il bouge, eh bien, c'est de pire en pire. Et là, on peut dire qu'il est migraineux.
Bon, vu ce que vous avez décrit, j'imagine qu'on va vite consulter. Mais à partir de quand il faut considérer que c'est un problème ? Il faut consulter qui ? Un neurologue directement ou le généraliste déjà dans un premier temps
peut-être ? Avec les traitements conventionnels, on arrive à guérir 7 crises sur 10,
oui,
en tout cas.
Super,
donc ça veut dire,
ouais,
que c'est pas mal. Et deux migraineux sur 3 est bien contrôlé avec ces traitements. Ça veut dire qu'il faut aller voir le neurologue pour tout traitement qui n'est pas efficace, ou lorsque vous avez une répétition de crise, si vous devez prendre un arrêt maladie toutes les semaines puisque vous avez justement une crise de migraine. C'est qu'il y a un problème. Et on l'oublie, la migraine, c'est 20 millions de journées d'arrêt maladie par an
énorme.
En France.
Ouais.
Donc c'est un manque à gagner pour la personne, pour la société, et ça a un véritable impact sur la vie personnelle.
Et pour traiter donc migraine versus maux de tête, est-ce que les traitements sont les mêmes? Parce que je crois qu'il y en a pas mal, hein. L'arsenal thérapeutique est assez important.
Alors il faut bien comprendre que d'abord les femmes sont plus touchées que les hommes. Mm-hmm. C'est 3 femmes pour un homme, il y a une vraie disparité, donc il y a peut-être un rôle hormonal dans tout ça. La migraine, elle passe avec des anti-inflammatoires, de l'ibuprofène, de l'Advil, de l'aspirine, du kétoprofène, alors que dans les maux de tête classiques, on prend un petit doliprane, un paracétamol, et ça passe. Dans la migraine, le paracétamol ne marche pas. Ce qui veut donc dire que si ça passe avec un simple doliprane, c'est que vous avez ce qu'on appelle ces fameuses céphalées de tension qui n'ont aucun rapport avec la tension artérielle.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Esteban qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. C'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Sylvie Chocran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Vous êtes également responsable de l'équipe Vision et Cognition à la Fondation ophtalmologique Rothschild. Et donc avec vous, en cette journée internationale des droits des femmes, on va s'intéresser aux secrets du cerveau féminin. Alors il n'est pas question dans cette émission, bien sûr, d'en tirer quelques conclusions que ce soit pour dire que l'un ou l'autre des deux sexes est meilleur, même si on a une petite idée, nous les femmes, évidemment. D'un point de vue, on va dire, strictement scientifique, Sylvie, le cerveau, est-ce qu'il a vraiment un sexe déjà? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un cerveau féminin, un cerveau masculin? Et on ne le sait pas depuis si longtemps que ça, je crois.
Alors, c'est difficile de dire qu'il y a vraiment un cerveau masculin et un cerveau féminin, parce qu'en fait, on a vraiment un effet de plusieurs facteurs. D'une part, les gènes, évidemment, parce qu'on n'a pas le même patrimoine génétique si on a un garçon ou une fille. D'autre part, les hormones. Et enfin, l'environnement, la culture, la société dans laquelle on vit. Donc, de fait, de plus en plus, on décrit des différences. Alors, certains décrivent des différences dans la forme du cerveau, d'autres dans la façon dont les régions sont liées entre elles, d'autres dans la façon dont on se sert de son cerveau. Donc, certains voudraient dire qu'il y a un cerveau masculin et féminin, mais on va voir que ce n'est pas aussi clair.
Bah pourtant, dans l'histoire, on a toujours cherché à savoir s'il y avait, d'un point de vue anatomique, une différence entre les deux. On a tenté de disséquer, de peser, d'observer les différences entre le cerveau d'un homme et d'une femme, non ?
Alors, on a vraiment voulu montrer que les cerveaux étaient différents. Ça ne se rapporte pas qu'aux hommes et aux femmes, d'ailleurs, hein, parce qu'on sait que dans les périodes où on est un petit peu plus conservateur, où on est dans une politique comme ça, un petit peu plus à droite, on a tendance à chercher des différences biologiques entre les hommes et les femmes, entre les races, entre les hétérosexuels et les homosexuels. Ça ne concerne pas que le genre. Donc il y a une tentative comme ça parfois de décrire que les cerveaux sont différents pour pouvoir décrire des différences finalement qui seraient immuables et qui seraient liées à la biologie.
Pourquoi c'est si apolitiquement incorrect de dire qu'il y a un cerveau femme, un cerveau homme, quoi, finalement ?
Parce que finalement, on pense que les différences qui sont apportées par la société, hein, par la culture, ont sans doute un effet beaucoup plus important que les différences liées simplement aux gènes ou simplement aux hormones. Et puis aussi, parce qu'en disant que le cerveau des hommes et des femmes est différent, inévitablement, comme dans l'introduction, on va essayer de savoir quel est le cerveau le plus performant.
Alors si on revient à l'origine de cette différenciation du cerveau féminin ou masculin, est-ce que vous pouvez nous rappeler le cerveau chez l'embryon, chez le fœtus, il se forme à quel moment durant la grossesse ?
Alors en fait, à partir de 6-7 semaines, on a vraiment la constitution du tube neural, on a les premiers neurones et là c'est l'usine à neurones. Donc on dit qu'on a la fabrication de 3000 neurones par seconde quasiment, donc ça n'arrête pas. Et puis ensuite, ce qui va être très important, c'est qu'autour de la 22e, 24e semaine, il va y avoir un pic de testostérone et là, la testostérone va avoir un effet très important et très différencié chez les hommes et chez les femmes.
C'est là que le cerveau devient féminin ou masculin à peu près.
Où on va avoir des effets qui vont être liés justement aux hormones.
Est-ce qu'à l'échographie, justement, une maman qui attend un bébé, si on ne regarde pas ce qui se passe dans les parties génitales, est-ce qu'au niveau du cerveau, dans le ventre, on peut déjà voir qu'il y a un cerveau de petite fille, un cerveau de petit garçon?
Non, c'est absolument impossible. Ouais. Et si vraiment on voulait voir des différences, il faudrait regarder très finement les connexions entre les différentes régions. Parce que dire que les cerveaux sont différents, ça peut être la forme, la taille, le poids, la façon dont les régions sont organisées, la façon dont elles sont reliées, la façon dont elles fonctionnent. Donc ça fait beaucoup de différences, on ne peut pas voir tout ça du tout.
Et une fois que l'enfant est né, est-ce que chez le nourrisson, il y aurait aurait certaines spécificités qui seraient induites par un cerveau masculin ou féminin, puisque finalement, sans regarder sous la couche, bah parfois c'est difficile de savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille.
Non, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de différence visible à l'imagerie conventionnelle. Aucun moyen de savoir si vous avez un cerveau de petit garçon ou de petite fille.
Si on prend justement d'un point de vue strictement anatomique, est-ce que le cerveau féminin d'ailleurs, parce que vous l'avez dit, depuis la nuit des temps, on le pèse, on le dissèque, on regarde des cerveaux post-mortem, mais est-ce qu'il est vraiment toujours plus petit, toujours plus léger? On parle juste de mensuration, hein, aucun jugement de valeur bien sûr, mais parce que je ne sais pas, il y a quand même des femmes qui sont bien plus costauds que certains mecs, donc alors, peut-être qu'elles ont des plus gros cerveaux, non?
Vous avez tout à fait raison. Pendant des années, on a sous-pesé le poids du cerveau des femmes et du cerveau des hommes, et on a dit de manière répétée que les femmes avaient un cerveau moins lourd. Sauf qu'en fait, on n'avait jamais penser à ramener la taille ou le poids du cerveau à la taille totale du sujet. Et finalement, quand on ramène le poids du cerveau au poids total, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes.
Qu'il a les mêmes mensurations.
Exactement. Mais en plus, on rajoutera à ça que le poids ou la taille du cerveau n'est pas lié à son efficience.
Oui, Einstein,
et on rappelle que Einstein, qui n'est quand même pas le dernier
des abrutis,
voilà, avait un cerveau qui était en moyenne beaucoup, beaucoup moins lourd qu'un cerveau masculin moyen. Donc, dans le domaine du cerveau, on n'a jamais, jamais établi de lien entre le poids et le fonctionnement.
Et aussi, on parle du cerveau, mais on pourrait parler en aparté en deux secondes du cœur des femmes. Le cœur d'un homme, c'est 300 grammes. Celui d'une femme, c'est environ 250 grammes. Donc, on pourrait se dire qu'il est un peu moins performant. Pour autant, le cœur d'une femme bat 10 à 15% plus vite. Donc, ce n'est pas qu'une histoire
petit
de
taille.
Costaud. Petit, mais costaud, exactement. Et pour finir sur cette histoire de taille du cerveau, qui ne déterminerait pas forcément son intelligence ou l'efficience, peut-être un mot sur la baleine bleue qui pourrait illustrer ce que vous dites.
Mais vous avez tout à fait raison. La baleine bleue, c'est le mammifère qui a le cerveau le plus lourd, le plus important. Et pourtant, personne jusqu'à maintenant n'a dit que la baleine bleue était le mammifère le plus intelligent. Peut-être, c'est possible, mais on ne sait
pas. La baleine bleue femelle, par contre, il paraît qu'elle est particulière. Sylvie, on va poursuivre bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans son rendez-vous, on va poursuivre cette plongée dans le cerveau féminin que l'on vous propose aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. En dehors des différences morphologiques propres à notre cerveau de femme, sait-on par exemple s'il fonctionne également vraiment différemment des hommes? On vous dit tout très vite, donc restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Sylvie Chocron. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris, et que donc avec vous cet après-midi, on tente donc de percer les secrets du cerveau féminin. Et à présent, on va s'intéresser à une période de la vie des femmes durant laquelle ce cerveau féminin, il se modifie. Et ça, pour le coup, c'est bien prouvé scientifiquement. Expliquez-nous.
Oui, alors effectivement, on sait maintenant que pendant la grossesse, on va avoir donc des modifications hormonales. Et ces modifications hormonales, elles vont modifier de manière vraiment morphologique le cerveau des femmes.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui change morphologiquement?
Alors, en fait, on a différentes régions dans le cerveau, dont certaines régions qui s'occupent de nos interactions sociales et de notre capacité, par exemple, à comprendre ce que la personne en face de nous pense. Et figurez-vous que pendant la grossesse, on s'est rendu compte que ces régions ont finalement une réduction du volume de leur matière grise. Alors, la matière grise, qu'est-ce que c'est? Ce sont les corps cellulaires des neurones, donc vraiment la partie la plus importante des neurones. Et donc, quand on a découvert ça, on aurait pu se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les
femmes
ont une forme de détérioration intellectuelle? Pourquoi est-ce que le volume de matière grise diminue pendant la grossesse? Et finalement, on s'est rendu compte que ça correspond quasiment à une respécialisation du cerveau. C'est-à-dire que ces régions cérébrales, comme la femme va avoir un enfant et va être engagée dans une interaction d'extrêmement bonne qualité, parce qu'il faut pouvoir se mettre à la place de son bébé, être en symbiose avec lui, finalement, ces régions qui sont chargées de la compréhension d'autrui, elles vont se respécialiser pendant la grossesse, s'affiner et du coup devenir parfaitement efficientes à la naissance du bébé.
Et ça veut dire, à l'inverse, pas de jugement de valeur évidemment, mais celles qui n'ont pas d'enfants, est-ce qu'il pourrait y avoir une différence entre ces deux femmes? Est-ce qu'il y a une différence très significative? Est-ce qu'on est beaucoup moins empathique ou beaucoup plus empathique avec ou sans grossesse ?
Alors non, évidemment, on n'a pas besoin d'avoir un enfant pour être empathique, mais de fait, on a besoin de l'être quand on a un enfant. Donc c'est plutôt que les femmes qui vont avoir un bébé, de fait, doivent développer cette capacité, mais bien évidemment, on a des femmes qui n'ont pas d'enfant.
Oui, et c'est parce qu'un bébé, c'est chiant, il faut dire ce qu'il
est.
C'est dur, et donc il faut beaucoup d'empathie pour éviter de faire n'importe quoi. Donc effectivement, on peut le comprendre d'ailleurs.
On devient donc des superwoman du lien affectif, on va dire, cérébralement, quand on a un bébé. Est-ce que c'est encore mieux quand on a plein de bébés, quand on a plein d'enfants?
Bah oui, vous
croyez... en a trois, alors, je sais pas.
Il faut beaucoup de courage après le troisième. Après le troisième, il faut vraiment...
Alors, vous croyez pas si bien dire, mais il y a effectivement des études qui ont montré que plus on a d'enfants, plus ces régions, effectivement, vont se différencier, vont se spécialiser. Et c'est pas juste dû au fait qu'on va devoir s'occuper de ses enfants, justement, et être très empathique, parce que c'est observé aussi chez les animaux. Mmh. Et donc, c'est vraiment lié, probablement, aux modifications hormonales.
Est-ce qu'il y a un effet seuil au bout de 10, ça s'arrête? Parce que alors, là, ça veut d'imaginer, si on a 15 enfants, c'est-à-dire vraiment là, on est des mentalistes en fait, c'est ça en fait. Les mentalistes ont peut-être beaucoup d'enfants.
Joker, on n'a pas encore d'études sur le sujet.
Mais du coup, est-ce que chez les papas ça marche aussi? Parce que on ramène alors, tout aux hommes encore
bien,
une fois.
Il aimerait bien.
Mais alors, est-ce que dans le cerveau il se passe aussi quelque chose?
J'aimerais vous dire oui. Je pense que la paternité change véritablement votre cerveau, mais pas morphologiquement. Ces différences morphologiques, elles sont vraiment sans doute liées aux hormones, parce que la paternité ne suffit pas. Il faut vraiment les hormones.
Car le cerveau est déjà bien fait en fait. Donc on n'a pas besoin de le modifier chez les hommes. Je pense que c'est ça que vous devez dire. Mais
d'accord. Donc il n'y a pas de lien avec la maternité ou la paternité en soi. C'est vraiment quelque chose de chimique et hormonal. C'est ça, d'accord. D'ailleurs, est-ce que ces changements cérébraux dont on vient de parler là chez la femme qui donc attend un bébé, ça se modifie, ça s'affine, on devient des superwoman, vous l'avez dit, du lien social, de l'empathie, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est durable, cette modification? Est-ce que quand on va regarder dans le cerveau de ces femmes, quand elles sont âgées, je ne sais pas, 90 ans par exemple, on voit toujours ces modifications chez celles qui ont eu des bébés ou pas?
Alors vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement étonnant, mais si on regarde des cerveaux de femmes âgées qui ont eu des enfants, même jusqu'à 80, 85 ans, 90 ans, on va voir ces modifications qui sont durables. Donc le cerveau s'est modifié durablement. Très probablement, la relation aussi avec les enfants a permis d'entretenir ces régions qui ont fonctionné de manière intensive tout au long de la vie.
Si on devient grand-mère et tout ça, c'est encore mieux, non?
Je pense que on recycle ces régions cérébrales qui étaient utilisées dans la maternité.
Depuis quand on s'intéresse à ça? Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'assez récent. Parce que d'ailleurs, vous êtes neuropsychologue. Qu'est-ce que c'est qu'une neuropsychologue? On sait ce que c'est un neurologue, on sait ce que c'est qu'une psychologue, mais une neuropsychologue, est-ce que c'est un nouveau métier d'ailleurs? Parce que ça se trouve, ça existe depuis bien longtemps, et même moi, je ne connaissais pas ça il y a 10 ans, j'ai l'impression.
Non, alors ça existe effectivement quand même depuis un siècle à peu près. Mais c'est vrai que la neuropsychologie, vraiment au départ, c'était des neurologues qui étaient neuropsychologues. La neuropsychologie, c'est l'étude du lien entre le cerveau et le comportement. Et c'est vrai que de plus en plus, les neuropsychologues se penchent non seulement sur le fonctionnement normal, ce dont on parle là aujourd'hui, mais également sur les effets d'une lésion cérébrale. Et surtout, ce que je fais aussi dans ma pratique clinique, c'est comment restaurer les fonctions après une lésion cérébrale.
C'est ce qu'on appelle aussi les neurosciences, ou c'est encore un autre domaine?
La neuropsychologie fait partie des neurosciences, effectivement. Mais dans les neurosciences, on va avoir d'autres disciplines que la neuropsychologie.
Et donc, pour différencier, je reviens à notre sujet du cerveau féminin et cerveau masculin, même hors grossesse, ce sont donc finalement, on peut conclure, est-ce qu'on peut conclure ce sont les hormones finalement qui ont une forte influence sur le cerveau féminin ou masculin et qui vont du coup peut-être nous faire agir différemment hommes et femmes, c'est ça?
Alors vous avez tout à fait raison, je pense que l'effet principal c'est un effet hormonal puisque ça s'observe aussi chez les animaux, pas uniquement chez les hommes. Je pense qu'il y a une interaction très forte avec les gènes puisque les hormones sont sous la dépendance eux-mêmes des gènes. Et les gènes, l'expression des gènes, est elle-même sous la dépendance de l'environnement. Donc on a cette triple interaction entre notre culture, notre société, nos gènes et nos hormones.
Et c'est quelque chose qui a été observé quel que soit le pays, parce qu'on pourrait imaginer l'impact des facteurs socio-culturels et se dire qu'en France c'est comme ça, mais qu'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose d'universel, ce qu'on a observé sur la modification du cerveau de la femme pendant la grossesse?
A priori, c'est totalement universel, mais vous avez raison, il y a une interaction très forte avec des effets environnementaux, et il y a probablement des sociétés dans lesquelles on s'occupe différemment des enfants, ou même la relation est différente, on n'est pas autant dans la symbiose et dans la compréhension de l'autre, mais il n'empêche que ces effets-là, a priori, sont plutôt universels.
Sylvie Chocron, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Sylvie Chocron. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Et donc, vous nous accompagnez aujourd'hui pour décrypter les secrets du cerveau féminin. Alors, on a vu qu'il existait des différences hormonales, surtout qui font que nos cerveaux hommes et femmes sont différents, fonctionnent peut-être pas de la même façon. Et cet effet des hormones sur notre cerveau, il pourrait influencer même nos décisions et même nos intentions de vote à nous femmes, c'est incroyable, ça, expliquez-nous.
Ah oui, c'est totalement incroyable. Donc il y a des chercheurs en 2012-2013, au moment de l'élection de Barack Obama, qui ont proposé l'idée qu'au moment de l'ovulation, en fait, cette sécrétion, ce pic d'œstrogène pourrait modifier la prise de décision, le raisonnement chez les femmes. Et donc, en quelque sorte, ils ont décrit qu'au moment de l'ovulation, les femmes étaient plus libérales. Elles étaient moins religieuses, donc moins conservatrices, et puis aussi qu'elles étaient plus facilement séduites par des hommes très séduisants, très attractifs. Et donc, très sérieusement, ils ont testé 500 femmes jeunes, en âge donc d'ovuler, et ils ont écrit cet article très provoquant, disant que finalement Barack Obama avait bénéficié du vote des femmes jeunes célibataires qui étaient au moment de leur pic d'ovulation, au moment des élections. Et donc évidemment, ça a bouleversé le monde scientifique. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a une autre équipe de la même université en Californie qui a mené une étude l'année suivante sur 1200 femmes, donc un échantillon beaucoup plus large, et qui a montré qu'en fait, il n'y avait pas de corrélation entre le niveau d'hormones au moment de l'ovulation et puis le choix de voter pour un candidat.
On peut laisser le droit de vote aux femmes, alors ça
et
va.
Donc l'article s'appelait véritablement « Les femmes peuvent garder le droit de vote ».
C'est un article scientifique, c'est incroyable cette histoire. Hein.
Exactement. Et c'est là qu'on voit à quel point, vous me posiez la question tout à l'heure, à quel point les recherches sur le cerveau des hommes et des femmes peuvent avoir une couleur un petit peu politique. Oui, parce que, voilà, on peut en arriver au droit de vote pour les femmes.
À voir si Emmanuel Macron s'est fait élire aussi parce qu'il a 40 ans, qu'il est aussi beau gosse. Hein, c'est un peu notre Barack Obama. Il faut dire ce qu'il y a. Bon, on ferme la parenthèse, on va recevoir des problèmes, quelques problèmes. Et si on fait des tests cognitifs aux femmes et aux hommes, quelles sont les principales différences qu'il pourrait y avoir avec un lien notamment avec les hormones?
Alors, on sait que la testostérone a un effet très important sur les capacités spatiales. Et donc, de fait, on pense que les femmes n'ont pas les mêmes capacités spatiales aux différents moments du cycle. Alors, ce n'est pas tant qu'elles sont meilleures ou moins bonnes, c'est plutôt
que... n'importe quel moment du cycle, ça ne marche pas, il n'y a pas de sens de l'orientation, donc je ne sais pas.
C'est plutôt que, elles activent les régions cérébrales qui sont concernées par l'espace de manière différente quand elles sont au moment de l'ovulation ou quand elles sont en dehors de l'ovulation.
C'est quand, alors, le meilleur moment pour prendre la route? Dites-moi, surtout, je vais regarder mon cycle plus attentivement.
En fait, j'aimerais vous dire ça, mais c'est surtout que le cerveau fonctionne différemment.
D'accord.
Et d'ailleurs, si on donne de la testostérone, si on supplémente des femmes en testostérone, elles vont se comporter spatialement comme des hommes.
Elles deviennent taxis. Et voilà.
C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de taxis femmes, en fait. Hein. Ouais. Bon, on va avoir beaucoup de problèmes à la fin de cette émission. On dit aussi que les femmes sont plus généreuses que les hommes. Est-ce que ça aussi, c'est un rapport avec les hormones dans notre cerveau?
Alors, la générosité, l'altruisme, l'empathie, ça a surtout un lien avec l'ocytocine, qui est cette hormone vraiment de l'attachement, cette hormone qui est sécrétée en masse au moment de l'accouchement, où on va justement s'attacher de manière importante à son bébé. Alors, il y a peu d'études qui comparent cet effet de l'ocytocine sur la générosité chez les hommes et chez les femmes, mais s'il y a un effet, c'est sans doute par ce biais-là.
On va parler un peu à présent de sommeil. Est-ce qu'on dort de la même façon, hommes et femmes? Est-ce qu'il y aurait donc une explication à ça dans notre cerveau?
Alors, on pense que les femmes dorment un petit peu plus en quantité, mais par contre, moins bien en termes de qualité, parce qu'elles auraient un sommeil très fragmenté. Et on pense que le fait que ce sommeil ne soit pas de bonne qualité est lié à plusieurs effets. Sans doute, là encore, le cycle menstruel qui modifie.
Hein, ça change
on sait
tout.
Bien qu'en période prémenstruelle, il y a beaucoup de femmes qui dorment très mal. Mais on a aussi un rythme, un cycle sur une journée qui n'est pas tout à fait le même entre les hommes et les femmes, qui pourrait influencer aussi la qualité du sommeil. Et puis, on ne va pas se le cacher, Mélanie et moi, on sait bien que les femmes ont une charge mentale bien plus importante que les hommes, qui peut les empêcher de dormir ou même les réveiller la nuit.
Et on rêve davantage que les hommes, par contre, à cause de ce sommeil de mauvaise qualité, finalement.
Alors, en fait, on se souvient mieux de ses rêves que les hommes à cause de ce sommeil-là, parce qu'effectivement, pour se souvenir de ses rêves, il faut être conscient à un moment donné, pour que la mémoire se mette en marche. Et donc, si vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, vous allez être, de fait, beaucoup plus conscient et mieux vous rappeler vos rêves et pouvoir en parler le lendemain.
Si on passe du côté de la pathologie, est-ce que le cerveau féminin tombe malade à l'identique, par exemple, face à des maladies neurodégénératives, pardon, ou même par rapport à l'AVC, est-ce qu'il y aurait un certain avantage des femmes pardon, par rapport aux hommes ?
Alors, il y a plusieurs études. Alors, concernant les AVC, effectivement, on dit que les femmes ont leurs fonctions cérébrales, le langage, l'espace, etc., qui sont dans les deux hémisphères. On dit qu'elles ont un cerveau qui est bilatéralisé. Elles ont beaucoup de langage dans l'hémisphère gauche et un petit peu dans l'hémisphère droit. Et pour l'espace, beaucoup d'espace dans l'hémisphère droit et un petit peu dans l'hémisphère gauche. C'est pour les femmes droitières. Et les hommes droitiers, eux, par contre, ils ont tout leur langage dans l'hémisphère gauche et tout leur espace dans l'hémisphère droit. Ce qui fait que quand un homme ou une femme a un AVC, c'est-à-dire une lésion d'origine vasculaire dans un hémisphère, bah si vous avez tout votre langage dans l'hémisphère gauche et que vous avez une lésion dans l'hémisphère gauche, vous risquez d'avoir plus de troubles qu'une femme qui aura un petit peu de langage encore
pour
à droite.
Pour une fois qu'on a un avantage, hein, on est moins lésé, d'accord.
Voilà, qui va pouvoir se servir de ses capacités résiduelles. Maintenant, pour les maladies neurodégénératives, il y a des études dans les deux sens. Donc les hommes et les femmes sont exposés pour des raisons différentes, mais de manière assez similaire aux maladies neurodégénératives.
Sylvie, on va terminer par l'impact de l'environnement, la société, l'éducation, bien sûr, sur notre cerveau féminin ou masculin. Si on enlevait tous les stéréotypes de départ, si on sait si une fille ou un petit garçon, finalement, on les élève de la même façon, est-ce qu'on sait si on se ressemblerait davantage si on enlevait tout au départ ?
Alors, c'est fort probable parce qu'il y a un effet extrêmement fort de l'environnement, d'une part sur le comportement, mais aussi sur l'expression même des gènes. Et donc, on sait par exemple que jusqu'à 3 ans, les petits garçons et les petites filles préfèrent jouer à la poupée. Tout le monde préfère la poupée. Et donc, effectivement, si on valorisait exactement les mêmes choses chez les hommes et chez les femmes, on aurait sans doute un comportement qui serait moins différent et peut-être une façon d'utiliser notre cerveau qui serait plus similaire.
Très bien. Docteur Sylvie Chocron, un grand merci de nous avoir accompagnés cet après-midi pour cette émission passionnante sur le cerveau des femmes. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que recommander votre livre « Une journée dans le cerveau d'Anna » paru aux éditions Erol. Merci encore.
Merci à vous.
Son rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, une séquence gourmande, une pause goûter. La naturopathe Candice Lévy va nous présenter ses nouveaux goûters bons pour la santé, garantis avec zéro sucre raffiné. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours. De 15h à 16h, nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi. À présent, nous approchons de l'heure du goûter. Pour nos enfants, c'est sacré, mais pour les grands aussi, n'est-ce pas Jimmy ? Trop souvent, trop gras, trop sucré. Nous allons donc vous donner plein de conseils pour passer à des goûters avec 0% de mauvais sucre. Et pour ce faire, nous accueillons tout de suite en ligne avec nous Candice Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes naturopathe et créatrice du concept de naturopédiatrie et vous venez de publier le livre « Les nouveaux goûters » chez Nathan. Pour commencer, Candice, de façon générale, pourquoi les produits destinés à nos enfants, eh bien, ils sont plus sucrés en général quand ça les vise eux. C'est sucre, 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 mais est-ce que les enfants, ils aiment ça et puis c'est tout ?
Ah, ils aiment ça, mais c'est surtout parce que les industriels l'utilisent pour changer l'aspect, la texture, la conservation d'un produit, et puis parce qu'un produit sucré est plus apprécié en général qu'un produit non sucré. Et puis parce que plus on en mange, plus on en a envie, donc plus on en achète, tout simplement.
Et concrètement, à l'heure du 4 heures, le corps d'un enfant a besoin de quoi ? Il a besoin d'un petit peu de sucre quand même ?
Oui, il a besoin de sucre, mais du sucre naturel et de qualité. Vers 16-17 heures, il y a une baisse de sérotonine. Et c'est à ces moments-là que le corps a besoin de sucre. Mais il a aussi besoin de s'hydrater. Il y a beaucoup d'enfants qui ne boivent pas suffisamment dans la journée. Du coup, leur cerveau, d'une certaine manière, se déshydrate. Et c'est extrêmement important pour le fonctionnement de l'apprentissage, de la mémoire. Donc, il a besoin de boire de l'eau, des infusions. Il a besoin de sucre naturel issu des fruits.
J'allais vous dire, c'est quoi du bon sucre ? Parce qu'il y en a des bons sucres pour les enfants, en tout cas. C'est quoi le meilleur qu'il faudrait leur donner pour que ce soit simple ?
C'est les sucres issus des fruits, parce qu'ils contiennent des fibres. Il y a l'ensemble, en fait, c'est ce qu'on appelle le totem de ce qui contient, de ce qui est contenu dans un fruit, donc des minéraux, des vitamines et des sucres naturels. Et l'intérêt, ce sont les fibres. Ces fibres, elles vont permettre d'abaisser le taux glycémique, le taux de sucre dans les aliments, ce qui n'est pas le cas de sucre quand il est isolé. Donc le sucre blanc, par exemple, contient purement du saccharose avec un index glycémique qui est élevé. Et sans ces fibres, le corps va avoir beaucoup plus de mal à réguler son taux de sucre dans le corps.
Alors vous parliez d'hydratation et d'infusion, c'est compliqué chez un enfant. On a tendance à leur donner un verre de lait ou un jus de fruits. Ça, c'est une fausse bonne idée aussi ?
Tout dépend de la consommation de produits laitiers dans l'ensemble de sa journée ou de sa semaine. Il est vrai qu'il y a une tendance à consommer beaucoup trop de produits laitiers qui favorisent la production des mucosités, en fait. Donc, ça dépend du terrain de l'enfant, c'est-à-dire de ses prédispositions aussi. Donc, sur des terrains où il y a de l'inflammation, il y a des rhumes, des otites, tout ce qui est lié à des écoulements, les produits laitiers vont avoir tendance à participer, à entretenir, en fait, cette hyperproduction. Et à encrasser l'organisme. Donc les produits laitiers, je dirais de temps en temps, souvent ils en ont assez à l'école. Et là, ça va être le moment, au contraire, de passer, c'est une question d'éducation aussi, découvrir peut-être des boissons végétales issues de l'amande, de la noisette, de la châtaigne.
Alors même si d'une façon générale, les enfants quand même, globalement, ils manquent de produits laitiers, hein, les végétales, moi je dis pourquoi pas, laissons les adultes. Et puis les enfants, souvent, mine de rien, à l'école, ils prennent pas tant que de l'exa, hein, donc on a besoin de leur supplémenter
non,
en lait.
Ils mangent des yaourts, oui, voilà, très bien. Fromage.
Oui, très bien.
Oui, tout à fait. Donc c'est peut-être pas nécessaire d'en rajouter.
Bien sûr, un verre en plus.
Voilà, c'est ça.
Candice, juste une petite recette pour nous mettre l'eau à la bouche dans votre livre, un goûter sain qui a beaucoup de succès. Ça serait lequel, par exemple?
Avec plaisir. Moi, je propose l'idée du cookie cru, qui est très simple à faire. C'est un mélange de graines, d'amandes, de noix, de noisettes, de cajou, qu'on va mixer avec des oléagineux, donc avec des fruits secs également, comme des dattes, des raisins secs, des baies de goji. On va mélanger avec un petit peu d'huile de coco pour avoir des graisses intéressantes, un peu de cacao en poudre, pourquoi pas de la cannelle. On va mixer pour obtenir une pâte, puis ensuite on va former des petits cookies.
Écoutez, on va laisser reposer. Très très bon, hein. En plus il n'y a pas de cuisson, donc ça va vite.
Et on peut aussi le congeler, comme ça c'est plus pratique pour les parents, pour anticiper les goûters.
Merci beaucoup Candice Lévy d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre Les Nouveaux Goûters 0% Sucre Raffiné, paru chez Nathan. Merci encore.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui on a une question d'Hervé que je vous lis tout de suite avec ma femme. Ça va faire 40 ans qu'on est ensemble, on a déjà vécu beaucoup de choses, mais voilà, la routine s'installe et on aimerait pas que notre couple se déchire. Auriez-vous 2-3 conseils à nous donner pour réinventer notre vie à deux? Bon, 2-3 conseils, Catherine, hein, pour,
alors déjà, je trouve
pour
ça
repimenter 40 ans de vie commune.
Voilà, mais c'est ce que je trouve formidable, c'est que la routine s'installe au bout de 40 ans.
Ça va, c'est tard.
Welcome, c'est super. C'est à nous de lui demander quelques conseils.
Quel est son secret, oui, c'est ça.
Parce que la routine s'installe beaucoup plus tôt et c'est assez naturel. Ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une maladie. Tout simplement parce que nous n'avons de cesse que de construire des codes, des habitudes sur lesquelles nous nous retrouvons, sur lesquelles nous nous complétons. Donc nous organisons notre vie dans le sens du confort et pas dans le sens de l'excitation, puisque l'excitation n'est pas confortable. C'est toujours de l'inconfort, puisqu'il y a toujours le risque qu'il n'y ait pas de réponse à notre excitation. Donc en général, nous nous organisons pour mettre du confort. Donc si pour Hervé, c'est 40 ans, c'est ça, c'est 40
ans. Ça fait rêver, hein.
40 ans,
je pense que zut, aujourd'hui, il y a un peu de routine.
Voilà, donc je pense que les conseils, on pourrait lui en donner, mais pour l'heure, déjà, félicitons-le.
Parce que la routine, ça fait partie de la vie. C'est la même chose dans un travail. Au bout d'un moment, ça devient la routine. Même pour un chirurgien, ça devient la routine que d'opérer un malade. Donc en amour, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de sentiments. Pas parce qu'on est dans une forme de routine, de plan-plan, qu'on n'aime plus la personne.
Bien sûr. D'ailleurs, regardez combien nous installons nos enfants dans la routine par le biais des repas, par le biais des
rituels,
des couchers, etc.
Ouais,
et que c'est cette routine qu'ils n'ont de cesse que de vouloir bousculer, rester un peu plus tard devant la télévision, raconter une histoire supplémentaire, c'est bien sûr pour créer de nouvelles choses, mais ils sont dans le confort et la sécurité de savoir que les parents sont là. Et donc, c'est absolument nécessaire et ce n'est surtout pas une preuve de manque d'amour. Les parents ne mettent pas au lit leurs enfants parce qu'ils les aiment plus et qu'ils veulent s'en débarrasser, mais parce qu'ils veillent.
Ça dépend des soirs.
Parce qu'ils veillent sur eux et leur bonne santé. Donc ce n'est pas une preuve de désamour. Simplement, c'est en tout cas, ça attire l'attention sur la difficulté que nous avons de créer des choses. C'est-à-dire de sortir de nos propres habitudes. Je ne parle même pas l'habitude du couple, nos propres codes. C'est-à-dire voir la vie autrement. J'avais prévu de manger le lundi des pâtes et tout d'un coup, je suis déstabilisée. J'avais projeté que j'allais manger des pâtes. Et ne pas manger des pâtes, c'est tout d'un coup un peu inquiétant. Manger
manger un produit qu'on ne connaît pas, ou découvrir ou inviter des gens qui s'invitent à la dernière minute. On a beau les aimer, cette petite bousculade est un peu dérangeante. Et donc, ça questionne cette capacité à nous déranger nous-mêmes.
Donc, vous avez dit la routine. Bon, il en parle en plus après 40 ans. La routine, c'est bien. C'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément fuir. Vous venez de nous expliquer. Mais il vous demande quand même 2-3 conseils pour réinventer leur vie à deux après 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer la vie à deux?
Alors, déjà, les conseils, évidemment, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et il n'est pas question de s'approprier la vie des autres, comme d'ailleurs souvent dans l'amour ou dans la sexualité. Nous allons chercher au travers de la pornographie, au travers de l'histoire des voisins, ce qui pourrait tout d'un coup être un peu excitant parce que les voisins se risquent à des aventures différentes des nôtres. Donc je pense que ça ne commence pas par l'autre. C'est comment soi-même je vais écouter peut-être mes propres envies. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire dans l'absolu? Ça ne veut pas dire que j'en serais capable, mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce que j'aurais envie de montrer à l'autre? Parce que finalement, on a beau être 40 ans ensemble, on s'est habitué à se montrer selon un certain angle et on ne se permet pas de déjouer l'idée que l'autre se fait de nous. C'est-à-dire, on sait que je suis comme ça ou que j'aime faire ça ou que j'aime telle et telle condition. Et changer risquerait de déstabiliser l'autre qui pourrait se dire « mais qu'est-ce qui te prend ?» Et je crois qu'il faut oser se confronter à cette critique ou à cette interrogation, parce que évidemment ça voudra dire aussi assumer cette possibilité-là. Donc là, le premier des conseils que je pourrais proposer à Hervé, c'est justement de se dire non pas ce qu'il faudrait faire comme pour l'autoriser, mais qu'est-ce que lui n'ose pas faire, n'ose pas dire ou n'ose pas tenter de nouveau, quitte à se planter. Parce que c'est ça qui est intéressant, surtout quand ça fait 40 ans qu'on est ensemble, on peut le risquer.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous donne bien sûr rendez-vous demain à 15h.
C'était Sans rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.
Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter tous les après-midi. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, on donne la parole aux femmes. Ah. Ces femmes qui ont donné de la voix et ouvert la voie.
Oui, Stéphane, on ne naît pas femme, on le devient. Oui. Céline
Simone
Dion.
De Beauvoir.
Ah, Simone de Beauvoir, je comprends toujours.
Et on va parler aussi de l'âme de gauche. Oui. Mais vous êtes...
Bah de Céline Dion, c'est pour ça que j'étais un petit peu... Oui. Oui, on va parler de Céline Dion, elle a ouvert la voie à sa manière, avec sa voix.
Mais oui, mais écoutez, moi j'adore Céline Dion, ça tombe bien. Je verrai,
vous
je
avez
là.
Donc du goût.
Bien sûr, je serai là évidemment. Et vous aussi, je vous le conseille, restez sur Europe 1.